Chapitre 8. Grace Haswell est laide. C'est la première réflexion que se fait Becker en la voyant, et il en a honte. Parce que surtout, Grace Haswell est effrayée. Il lui a fait peur. Pendant une minute, peut-être un peu plus, il reste planté devant la porte qu'on vient de lui claquer au nez, songeant moins à la femme terrifiée recroquevillée derrière qu'à l'humiliation qu'il subira quand il devra raconter ce qui s'est passé à Sébastien. À moins qu'il lui mente, ce ne serait pas la première fois. Il s'apprête à rebrousser chemin quand la porte se rouvre d'un coup, manquant l'assommer au passage. Il recule d'un pas.
« Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ?»
gronde Grace Haswell en le fusillant d'un regard glacial, les lèvres retroussées comme si elle avait l'intention de le mordre. Pas si terrifié que cela en fin de compte. Becker s'éloigne un peu plus. « Permettez-moi de vous expliquer, docteur Haswell. Je ne suis pas là pour... Je voudrais vous parler de Division 2, la sculpture. »
« Je vous l'ai déjà envoyé !»
rétorque Grace, sourcil froncé.
« C'était avec la deuxième livraison, ou la troisième, je ne sais plus. Mais j'ai gardé tous les documents. Est-ce que vous essayez de me dire que vous ne l'avez pas reçue ?»«
Si, si, elle est bien arrivée. Le problème, c'est que nous avons prêté l'œuvre à la Tate Moderne pour une exposition et... »«
Et ils l'ont endommagée ?»«
Non, enfin, pas encore. » Le froncement de sourcils de Grace s'accentue. Becker prend une grande inspiration, expire lentement, et, sentant qu'il s'est remis à pleuvoir, il rentre la tête dans les épaules. « C'est compliqué, » ajoute-t-il. La bouche de Grace frémit, et, l'espace d'un instant, il songe qu'elle va sourire. Elle n'en fait rien, mais elle écarte un peu plus le battant de la porte et s'efface pour l'inviter à entrer. Becker franchit le seuil. Il a le cœur qui bat la chamade, la tête qui tourne. Il n'ose plus respirer. Il a attendu ce moment si longtemps. Il est sur le point de pénétrer dans le sein des saints, la maison de Vanessa Chapman, et c'est très sombre. L'intérieur est assez défraîchi. Il y a du bazar partout. Il voudrait savourer cet instant magique, mais il ne ressent que de la déception.
« Par ici !»
aboie Grace. Becker referme la porte derrière lui et lui emboîte le pas. Un petit couloir et... Oh ! Il y a du jaune et du bleu à présent. De la lumière, une vue, et pas n'importe quelle vue. La chaussée submersible, l'étendue de sable, le trio de montagnes enneigées au loin.
« Les sables d'Eris !» s'exclame-t-il triomphant. « C'est le paysage des sables d'Eris !»
Grace est appuyée contre le fourneau situé sur la droite de la pièce, les mains dans le dos, une expression indéchiffrable sur le visage. Becker est incapable de contenir son excitation.
Elle devait se trouver dans cette pièce quand elle l'a peint, dans cette cuisine. La perspective, la manière dont la lumière pénètre. J'ai toujours pensé qu'elle avait réalisé les sables d'Eris en extérieur, mais elle était là, pas vrai?
Il baisse la tête, remarque les taches de peinture au sol et sur les murs, là où Vanessa a dû secouer son pinceau, et instantanément un frisson lui parcourt la colonne vertébrale.
Juste là! S'écrie-t-il triomphant.
Lorsqu'il se retourne vers Grace, il croit déceler l'esquisse d'un sourire sur son visage avant qu'elle se saisisse de la bouilloire pour la remplir.
« Elle préférait travailler dehors, bien sûr, »
explique-t-elle en allumant le gaz.
« Le froid ne lui faisait pas peur, mais parfois le vent était trop fort. »
Elle marque une pause et ajoute, visiblement radoucie,
« À la fin, quand elle a commencé à décliner, elle n'avait plus vraiment le choix. »
« Je m'en doute, » acquiesce Becker en se forçant à prendre un air solennel. « Je suis désolé, je suis très excité. Ça fait si longtemps que je rêve de visiter l'endroit où elle a vécu. » Grace hoche la tête et redresse juste assez le menton pour que Becker se rende compte que son expression a encore changé. Du dédain, lui semble-t-il, même s'il ne peut en être certain. Et il comprend alors qu'il s'est montré irrespectueux. Cette maison est aussi celle de Grace. Ce n'est pas une attraction touristique. Il décide de se taire. D'un geste, Grace lui indique une chaise à la table de la cuisine et retourne s'occuper du thé. Becker s'assoit. Il regarde autour de lui. Les poutres sombres en travers du plafond,
le poêle à bois coincé dans une alcôve contre le mur du fond. Si, dans l'ensemble, la pièce est douillette, et il imagine qu'elle doit être très lumineuse quand le soleil est au rendez-vous, elle est surtout vieillotte. La peinture s'écaille un peu partout. Les portes de certains placards pendent sur leurs gonds, et les murs ont pris la couleur de la nicotine, à l'exception de plusieurs rectangles jaune pâle, la teinte d'origine probablement, marquant l'emplacement de tableaux qui ont depuis disparu. Becker essaie de se figurer à quoi ressemblaient les lieux du vivant de Vanessa. Exposait-elle ses propres œuvres? La vue sur la mer faisait-elle face à son pendant sur la toile? Ou l'artiste préférait-elle admirer au quotidien des tableaux qui n'étaient pas les siens? Grace se rembrunit en voyant Becker observer le rectangle fantôme au-dessus du poêle à bois. Une chose est sûre, cette femme est à l'opposé de l'image que Becker s'en faisait. Car s'il a lu quantité d'articles sur Vanessa Chapman et sur sa vie sur l'île d'Eris, il n'a jamais vu la moindre photo de Grace Haswell. Avant de la rencontrer, il s'imaginait donc une femme grande et élancée, dans le plus pur style pré-raphaélite, avec d'immenses yeux verts et de longs cheveux auburn zébrés de gris. En fait, Grace est petite, 1m50 au maximum, et trapue. Becker n'est pas doué pour estimer l'âge des femmes au-dessus de la cinquantaine, mais il lui donnerait autour de 65 ans. Un visage assez flasque, des joues qui commencent à pendre, un teint terreux. De ses cheveux courts à ses yeux légèrement globuleux en passant par son pull ample et son pantalon qui bouffe aux chevilles, elle semble peinte en nuances de marron. Becker se demande à présent pourquoi il s'attendait à ce qu'elle soit belle. En partie probablement à cause de son prénom, qui évoque l'image d'une nymphe aux proportions parfaites. Mais surtout parce qu'il a commis l'erreur de tirer une vérité absolue d'un constat biaisé établi à l'époque du lycée, où il lui semblait que les jolies filles traînaient toujours ensemble. Puisque Vanessa Chapman était une femme sublime, celle qui partageait sa vie se devait de l'être aussi. Grace pose une tasse devant lui, mais elle le fait de manière si brusque qu'une partie du liquide se renverse sur la table. Becker goûte le thé, très fort et très sucré.
« Avez-vous des doutes concernant l'authenticité de Division 2 ?»
demande soudain Grace en s'asseyant en face de lui.
« Parce que je peux vous assurer que cette œuvre est bien de Vanessa, à 100%. »
Becker se redresse sur sa chaise, un peu surpris. Jamais il n'a envisagé que Vanessa puisse ne pas avoir réalisé cette sculpture.
« Je reconnais que cette série, qui se sera finalement arrêtée à 6, ne ressemble pas au reste. »
poursuit Grace.
Vanessa s'est essayée à la sculpture à une période de sa vie où elle avait du mal à peindre.
Elle boit une gorgée de thé.
Si vous avez besoin de preuves, il existe des notes, des croquis.
La bouche de Becker s'assèche en entendant cette dernière phrase, mais il n'a pas le temps de réagir que Grace lève la main et ajoute
« Inutile de me demander de vous les montrer dans l'immédiat, il faut déjà que je les retrouve. J'ai conscience que vous n'êtes pas des gens qui brillent par leur patience, mais vous devez vous y faire. »
Becker grimace en buvant à son tour une gorgée de thé trop sucrée. Devrait-il expliquer à Grace qu'il n'a rejoint la fondation que très récemment et qu'il ne fait pas tout à fait partie de la famille?
Alors?
Lance Grace.
De quoi s'agit-il? D'une question d'authenticité?
Non, non, répond Becker en secouant la tête avant de se lancer dans l'histoire qu'il est venu raconter. L'anthropologue qui a visité par hasard la Tate moderne, l'email, l'os. Quand il a atteint le dénouement, Grace se met à rire.
« Un os humain ?»
répète-t-elle. Et il acquiesce. Elle rit de plus belle et son visage se transforme, s'adoucit, alors que ses joues ressemblent désormais à deux pommes rouges. A-t-elle une petite soixantaine d'années, en fin de compte? Voire moins?
« Vous êtes au courant que je suis médecin ? »
demande-t-elle.
« Si Vanessa avait utilisé des restes humains dans cette culture, vous ne croyez pas que je m'en serais rendu compte ?»
Becker se sent rougir. Je me suis dit exactement la même chose quand on me l'a annoncé, que quelqu'un s'en serait aperçu avant. Mais visiblement, il est assez facile de confondre une côte de chevreuil et une côte humaine. Les lèvres pincées, Grace hoche la tête, pensive.
Moi aussi, ma première réaction a été d'éclater de rire,
enchaîne Becker.
J'ai fait remarquer à mon chef que cette sculpture avait été exposée non seulement à la Fondation, mais aussi dans de nombreuses autres galeries européennes. En attendant, le fait est que les gens de la Tate moderne sont inquiets. Ils ont retiré la pièce de l'exposition et ils insistent pour que Sébastien, je veux parler de Sébastien Lennox, mon chef, fasse réaliser des tests sur l'os en question, afin d'établir si...
Vous ne pouvez pas faire ça,
proteste Grace.
Vous ne pouvez pas ouvrir la boîte. Elle
fait partie intégrante de l'œuvre, complète Baker.
C'est ce que je leur ai dit. C'est précisément ce que je leur ai dit.
Leurs regards se croisent.
Elle l'a fabriquée elle-même, explique Grace d'une voix fatiguée. Ses empreintes digitales sont enfermées dans le verre. Il y a des traces d'elle à l'intérieur de cette boîte. Son ADN, son souffle.
Baker baisse la tête, honteux. 5 ans se sont écoulés depuis la mort de Vanessa Chapman, mais il est évident que cette femme n'a toujours pas fait son deuil. Ce qui est compréhensible. En 5 ans, elle a vu sa maison se faire dépouiller de tous ses tableaux. Elle s'est vue accusée d'incompétence, et pire encore, et elle continue de se faire harceler par les avocats de la Fondation Fairburn. Et lui, qui se présente à sa porte au crépuscule, sans prévenir. Je suis vraiment désolé de vous embêter avec cette histoire, docteur Aswell, dit-il avec douceur. J'ai pensé que la solution la plus simple pour éviter d'avoir à ouvrir la boîte serait sûrement que je jette un œil à d'éventuels croquis ou notes concernant cette sculpture. Si j'avais une idée d'où et quand Vanessa a mis la main sur cet os, alors peut-être que je...
Ou je peux déjà vous le dire, réplique Grace. Enfin, pas avec précision, mais il y a de grandes chances que ce soit dans la forêt, sur une colline derrière la maison. Elle adorait aller fureter là-bas, là-bas ou sur la plage. Les ossements, ce n'est pas ce qui manque sur cette île. Chevreuils, moutons, bovins. On tombe même parfois sur des restes de phoques.
Elle hoche la tête et le scrute en plissant les yeux.
Mais même si vous saviez où et quand elle l'a trouvé, je ne vois pas à quoi ça vous avancerait,
ajoute-t-elle.
Qu'est-ce que ça vous apprendrait de plus?
Pas grand-chose, reconnaît Baker. Après, si elle a mentionné cet os dans un de ses carnets, elle a aussi pu évoquer les circonstances dans lesquelles elle l'a trouvé, ce qui pourrait prouver qu'elle ignorait de quoi il s'agissait et qu'elle n'avait donc aucune intention d'utiliser...
D'utiliser délibérément un os humain dans sa sculpture,
raille Grace.
Qui irait imaginer que...
Soudain, elle s'interrompt et se lève. Le dédain a fait son retour sur son visage.
Mon Dieu, je viens de comprendre. Vous pensez que c'est lui, pas vrai?
Non, je...
C'est absurde, crache-t-elle, les lèvres tordues par le mépris. Complètement absurde.
Elle retire à Baker sa tasse de thé encore à moitié pleine et la vide dans l'évier.
Fichez le camp,
ordonne-t-elle.
Je vous en prie, docteur Aswell, je ne crois pas du tout que ça puisse être lui. Ce n'est pas pour ça que je...
Immédiatement,
crie-t-elle en désignant la porte.
Sortez de chez moi.
Baker n'a pas le choix. Il récupère son manteau et remonte le couloir, suivi de près par Grace.
Vous ne manquez pas de culot,
peste-t-elle.
Allez inventer une histoire sans queue ni tête, dans le seul but de promouvoir votre petit musée minable. En plus, ça ne tient pas debout. Julian Chapman a disparu en 2002 et Vanessa a réalisé Division 2 en 2004.
En 2005, songe Baker, mais il sent que ce n'est pas le moment de la reprendre.
Vous vous rendez bien compte qu'il faut beaucoup plus que 2 ans à un corps pour se retrouver à l'état de squelette,
continue Grace.
À vrai dire, je n'en ai aucune idée,
bredouille Baker, piteux.
Eh bien, moi, je vous le dis. Bon sang, c'était trop compliqué de poser la question à quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Vous ne manquez pas de culot,
répète-t-elle.
Vous ne méritez pas de vous asseoir dans la cuisine de Vanessa, de vous promener sur son île. Vous ne méritez pas d'accrocher le moindre de ces tableaux au mur de votre satanée fondation. C'est vraiment ça que vous pensez d'elle? Qu'elle a, quoi, assassiné son mari pour en faire une sculpture?
Journal de Vanessa Chapman. Je suis à Naples, où l'air a l'odeur du sel et du soufre, où on se promène au bord de la mer le soir, sous un ciel violacé, pour espionner les gosses du coin, ces ravissants adolescents qui rient, crient et s'embrassent dans la semi-obscurité. Le jour, la chaleur et les hommes ne me laissent aucun répit. Marcher dans la rue est une épreuve. La dernière fois que je suis venue, je n'étais qu'une enfant. Mais je me souviens des regards de convoitise des passants sur ma mère. Elle souriait, ça l'amusait. Moi, je fronce les sourcils et je grommelle des jurons. En dépit de ma vanité, ou à cause d'elle, justement, je n'ai jamais aimé qu'on me peigne ou qu'on me photographie. Je n'ai jamais aimé être regardée. Non, je suis là pour regarder. pour regarder le Judith et Holoferne de Gentileschi au musée de Capodimonte. Ce tableau aussi fait partie des souvenirs du séjour précédent. À l'époque, je pense que j'étais simplement fascinée par l'horreur qui s'en dégage. Le gore. Aujourd'hui, ce que j'adore, c'est la façon dont ces deux femmes travaillent de concert, absorbées par leurs tâches, très appliquées. La Judith du Caravage est hésitante et craintive, mais celle-ci, avec ses lèvres rouges et sa robe du bleu du ciel napolitain, est déterminée, stoïque. Elle sait retrousser les manches. Quant à sa servante, elle ne fait pas qu'assister à la scène, non. Elle participe activement. Elle tient Holoferne, le plaque sur le lit, concentrée sur son visage. On peut presque croire qu'elle prend du plaisir. J'étais plongée dans mon admiration de ces femmes extraordinaires quand une ombre m'a enveloppée. Un homme s'était approché et bloqué toute la lumière. Grand, les épaules larges, la mâchoire carrée, on l'aurait plutôt imaginé chez un bookmaker que dans un musée. Je m'apprêtais à m'éloigner quand il m'a demandé « Vous êtes bien Vanessa Chapman ?» Impossible de décrire ma surprise. Il m'a expliqué qu'il avait vu ma photo à l'exposition au Cube. Il s'appelle Douglas Lennox. Il tient une galerie à Glasgow. Et il voudrait devenir mon agent. J'ai accepté de le suivre dans un bar et après quelques verres dans sa chambre. Ce n'est probablement pas une excellente idée si on doit travailler ensemble, mais il se débrouille plutôt bien. Et comme il est marié, il ne devrait pas poser de problème. Julian est rentré depuis 5 jours et n'arrête pas de bouder. Apparemment, c'est terminé avec Celia. Il est complètement fauché et son père refuse de lui avancer une nouvelle somme d'argent. Je n'ai rien à lui prêter non plus. Douglas Lennox est passé hier. Il m'a appelé de la gare d'Oxford et m'a dit qu'il était de passage. Pourtant, l'Écosse, ce n'est pas la porte à côté. Il n'a pas aimé mes tableaux du palais de Blenheim, ceux que tout le monde admire. Trop sentimental, trop mièvre. Il adore les haies. Ça, c'est audacieux, a-t-il dit. Ça, c'est ambitieux. Ça ouvre de nouvelles perspectives à l'art pictural. Et c'est votre but, non? Pendant qu'on bavardait, Julian est entré dans l'atelier. Avec Douglas, on se tenait très proche. Je devais avoir la main sur son bras, ou lui la sienne dans mon dos. Enfin bref, on se touchait. Et Julian, qui sait que je suis tactile avec tout le monde, est ressorti en claquant la porte. Douglas et moi avons discuté longtemps. Je lui ai parlé de mon envie d'aller vers la 3D, le relief, d'utiliser le couteau à palette pour créer des marques sur la toile qui s'apparenteraient à de la sculpture. Il m'a fait remarquer que je n'avais pas produit mes meilleures œuvres ici. Mes peintures de Cornouailles et d'Italie sont plus réussies. Ce décor qui auparavant m'enthousiasmait a perdu de son attrait. Le soir, quand Julian est rentré à la maison, il m'a posé des questions sur Douglas. Et je me suis moquée de lui. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Je crois que j'aurais voulu qu'il le fasse. Cela m'aurait donné une bonne raison de le quitter, non ? Depuis 3 jours, les orages se succèdent et j'ai l'impression que mon corps a emmagasiné l'électricité ambiante. Je peins et je peins, je revis, je déborde d'une énergie nouvelle. Demain, Londres, pour la foire de Frise. Je pensais que Julian m'avait pardonné pour l'incident avec Douglas. J'avais tort. Quand je suis revenue de Londres, il a lancé le 2e round et j'ai eu droit à un bon vieux combo gauche-droite. Gauche, il a recommencé à voir Celia Gray, et ce n'est pas une passade, il dit qu'il est amoureux. Droite, en mon absence, il a pris un de mes tableaux d'Italie, Front de mer à Naples, et l'a vendu à un marchand d'art, à un ami de Celia. Je n'arrive pas à décrire ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas que du désespoir, mais une noirceur comme je n'en avais encore jamais connue, une véritable haine. Parfois sa curiosité me sidère. Ses infidélités ne suffisaient pas. Voilà maintenant qu'il se sert dans mes œuvres et dépense l'argent que je gagne durement. Je dois retrouver toute ma détermination. Je dois placer mon travail au cœur de ma vie. Et je dois quitter Julian. Sinon, je crois que je finirai par le tuer. À moins qu'il me tue d'abord.